Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Un groupe d'étudiants en médecine ou de médecins est réuni autour d'une psychanalyste. Une interne raconte qu'elle exerce temporairement en cabinet. Un jour, elle reçoit en consultation une patiente qui se plaint de malaises répétés et un peu mystérieux. L'étudiante prend sa tension, l'apaise, l'examine et lui pose les questions habituelles. À la suite de ces divers examens et au vu de la personnalité de la patiente, il apparaît assez rapidement qu'elle n'est pas malade. Quand l'interne lui dit qu'elle n'est sans doute pas malade du tout, la patiente s'énerve, se met en colère et lui répond qu'elle n'est pas folle, elle le sait. Pour s'en débarrasser, l'étudiante émet l'hypothèse de malaise vago, mais ce diagnostic ne convient pas à la patiente. Pas assez sérieux ni assez grave pour décrire son état. L'étudiante est désemparée. La consultation s'éternise, le désarroi se transforme en agacement, puis en confrontation. Finalement, l'étudiante énervée ne trouve pas d'autre solution pour se sortir de cette situation que d'envoyer cette patiente chez un neurologue. La malade imaginaire est contente, mais le problème est intact. Le travail du groupe Balint et de la psychanalyste qui l'accompagne consiste à écouter d'abord l'histoire de l'étudiante, puis à essayer de chercher avec elle une solution plus efficace. La psy dit que lorsqu'un malade agace un médecin, il doit se souvenir, le médecin, avant tout, que c'est quelqu'un qui souffre, qu'il a devant lui. L'étudiante doit aussi donner à cette dame le sentiment qu'elle est écoutée, qu'elle peut elle aussi déposer son histoire. Puis un autre étudiant propose un compromis, on aurait pu lui prescrire des bas de contention. Ça l'aurait soulagé, ça l'aurait occupé et ça l'aurait peut-être calmé. La discussion continue et d'autres étudiants ou médecins confirmés viennent déposer, comme ils disent, leur histoire. Ainsi se déroulent les groupes Balint depuis les années 60. Delphine Saltel a assisté à deux d'entre eux et nous fait entendre des histoires qui y sont donc déposées. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, évidemment.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bien. Bonjour.
Bonsoir.
Comme d'habitude, on va commencer par la question que vous connaissez bien. Qui ne veut pas repartir sans parler de quelque chose, hein, en sachant que chaque mois, c'est vraiment cet espace pour que vous puissiez vous désencombrer, déposer des situations complexes et difficiles. Hein, je crois que c'est important de pouvoir bien raconter une histoire et pourquoi vous avez envie de raconter l'histoire que vous allez raconter. Qui est-ce qui a envie de se lancer? Laure.
Non, c'est juste une situation qui m'a fait un peu culpabiliser. Un monsieur de 80 ans qui a été pris en charge pour un cancer du poumon dans le service. Un monsieur qui avait déjà perdu son épouse d'un cancer du poumon quelques 10 ans avant. Donc c'était lourd déjà, le diagnostic, c'était compliqué. Et puis les premiers contacts se sont bien passés. Et puis il y a eu une fois où il y avait des ponctions pleurales à faire un peu régulièrement. Et puis je l'avais fait la première fois avec un étudiant, c'est très bien passé. La deuxième fois avec un étudiant, c'était moins bien passé. Il m'avait reproché de me servir de lui comme d'un cobaye. Il m'avait dit, voilà, vous parlez, vous savez bien expliquer les choses, mais vous faites, c'est pas vous qui faites avec vos mains, vous faites faire. Et puis il n'arrêtait pas. En fait, il avait eu mal au moment de la ponction, alors que la première fois, quand on l'avait faite, il n'avait pas du tout eu mal. Et cette situation m'avait vraiment, vraiment touchée. Et j'étais sortie de la chambre, les larmes aux yeux, en me disant, je ne suis pas là pour faire souffrir ce monsieur. Bref, je rentrais à la maison. Et puis il revient récemment parce qu'il est moins bien à la maison, que ça devient compliqué. Et je me dis, j'ai pas envie de le voir. C'est terrible, on est deux internes et on dit, oh, allez, on va tirer au sort, qu'il va aller le voir. Enfin, bon, c'était pas quelqu'un de simple. La première phrase quand on lui demande, ça va? Oui, ça va, mais j'ai mal là, je mange pas, je dors pas. Il fait la liste de toutes ses doléances quand on arrive dans la chambre. Donc c'est. Il met un peu les médecins dans l'échec à chaque fois. Et c'est le week-end, donc je suis d'astreinte, donc je dois aller le voir puisqu'il n'y a personne d'autre, donc c'est moi. La veille, il était hospitalisé pour ce qu'il avait craché beaucoup de sang d'un coup, et du coup, on avait préparé tout le monde en disant si jamais il a craché beaucoup de sang, on l'endormira. Et moi, j'arrive le dimanche, déjà dans le métro, je me dis oh, j'ai pas envie d'aller le voir ce matin. Et j'arrive et on me dit « il est décédé cette nuit ». Et en fait, j'étais soulagée et cette sensation, de ressentir ça, ça m'a fait culpabiliser. Mais je me suis dit « mais comment je peux être soulagée qu'il soit décédé alors que… » Enfin, vraiment, ça m'a fait vraiment bizarre. Parce que c'est la première fois que ça m'arrive, une situation pareille, vraiment…
C'était aussi le soulagement de te dire bah, « Ah, ce matin, je vais pas me faire insulter. »
Non, mais c'est ça, mais j'aurais pas à aller le voir aussi. J'aurais pas à aller le voir, c'est ce que je me suis dit. C'était quand même fou de me dire « J'aurais pas à aller le voir ce matin, j'aurais pas à rentrer dans sa chambre. »
Mais ce soulagement, finalement, est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est pour lui? Non. Ou alors je l'entends parce que j'ai...
Dans ma situation. Non, mais lui avait parlé d'euthanasie, il avait parlé d'aller dans un autre pays. Au début, c'était ses premiers...
Oui, j'entends bien. Alors, voilà, j'ai bien entendu. Et avec le groupe de médecins que vous êtes, vous sentez tellement coupable dans votre projection à l'idée d'être soulagé parce qu'un patient est décédé, et vous ne posez même pas la question de savoir si finalement, pour ce patient-là, c'est pas aussi un soulagement.
En fait, au tout début, quand on lui a annoncé le diagnostic, il a dit d'accord.
Qu'est-ce que vous lui avez dit comme diagnostic?
Qu'il avait un cancer. Au tout début, quand on a su les choses, on lui a dit qu'il avait un cancer, qu'il a demandé comment ça allait se passer, quels étaient les traitements, quelles étaient les possibilités, quelles étaient l'issue, s'il choisissait de ne pas faire de traitement, comment ça allait se passer. Et est-ce que c'est les mêmes traitements que mon épouse a eu à 10 ans? Est-ce que ça va se passer de la même façon parce que ça s'était pas bien passé? Est-ce que, voilà. Est-ce que ça vaut le coup? J'ai 80 ans. Peut-être que je vais aller en Belgique. Peut-être que ça vaut mieux l'euthanasie. Voilà. Et puis finalement, il a accepté le traitement. Et il est venu et puis il se trouve que le traitement s'est mal passé. Donc on l'a arrêté. Mais il n'en a plus jamais reparlé après.
D'accord. Et vous l'avez pris contre vous, c'est-à-dire que vous êtes mauvais médecin et que vous n'arrivez pas à le soulager. Il était aussi en train d'exprimer qu'il n'en pouvait plus. Hein, c'est ça aussi qu'il était en train de dire. Mais ce sentiment de culpabilité faisait que peut-être vous n'arriviez même plus à entendre que vraiment il n'en pouvait plus.
En fait, c'est ce qui m'a fait drôle, c'est d'y penser le matin dans le métro, arrivant, et
comme
me dire...
Comme si c'était une prédiction, en fait. Comme si c'est ce que tu avais voulu, tu avais souhaité, et que c'était, c'est un peu comme si je t'étais dit, c'est de ma faute.
La pensée magique.
Voilà. Un peu un truc comme ça, peut-être.
Ouais. C'est pas tant qu'il soit décédé, c'est que vous y ayez pensé dans le métro, en disant... Voilà.
Non, mais il y a un peu de ça, probablement. En fait, c'est ça qui m'a...
Ouais. C'est ça.
Finalement, ça pouvait pas se passer. La fin pouvait pas se passer mieux parce que finalement, il a été endormi très vite. Il s'est pas rendu compte. Voilà. Il voulait pas souffrir. Il voulait pas devenir. C'est le premier truc qu'il a dit. Je veux pas être un légume dans un lit. Donc finalement, c'était pas si.
Ouais. Donc la culpabilité, c'est pas par rapport à lui, mais c'était cette pensée dans le métro qui s'est réalisée. Trop forte. Vous travaillez même dans le métro.
Ça, je vais arrêter de penser.
Toute petite remarque par rapport à l'information. Est-ce que c'est bien de trop donner d'informations? J'ai vécu en tant que patient, à l'inverse, récemment. Je suis allée simplement faire un bilan. Je voulais me faire opérer de la myopie. Je suis très, très myope. Et donc, on me fait plein d'examens. Et je vois d'abord l'interne qui me dit « Ah, vos examens sont pas normaux. Vous avez peut-être un kératocone. Mais bon, vous allez voir avec le chef de clinique après. Voilà. Bon. » Alors, je regarde tout de suite sur Internet qu'est-ce que c'est que kératocone, parce que je ne suis pas ophtalmo, et donc je ne sais plus ce que c'est. Et donc là, évidemment, je lis qu'à 50 ans, je serai aveugle. Et donc là, je commence à stresser et tout, donc je vais voir, j'ai limite les larmes aux yeux en voyant le chef de clinique, et je lui dis « j'ai un kératocone ». Il me dit « non, il n'y a pas de problème, tout va bien, bon, vous ne pouvez pas avoir telle opération, mais vous aurez celle-ci, pas de souci ». J'ai détesté l'interne. Je l'ai détesté et je me suis rendu compte que je faisais ça aussi. Ça m'arrivait quand j'avais, par exemple, je regardais une radio des poumons et je trouvais qu'il y avait une petite anomalie, mais pas, bien sûr, pas sur le cancer, mais sur un diagnostic un peu à la Dr House. Je me dis, ah, vous avez peut-être une sarcoïdose, mais j'en suis pas sûre, il va falloir faire d'autres examens, et puis vous verrez avec mon chef de clinique. Et puis, du coup, je pense pas que la personne en face de moi va regarder ce que c'est sarcoïdose et va voir qu'on peut, en fait, mourir d'un trouble du rythme cardiaque et que peut-être, en fait, elle va avoir des angoisses jusqu'à ce qu'elle voit le chef de clinique, la personne qui a plus d'expérience. Et donc, je me dis que quand on n'a pas l'expérience dans dans un domaine, maintenant je fais beaucoup plus attention à pas lancer un diagnostic, une hypothèse dans l'esprit de me dire « Ah bah si j'ai raison, et bah, elle dira « Le docteur l'a dit et je suis fière de moi ». En étant patient, je me suis rendu compte de ça. Ouais. Et donc effectivement, elle n'avait pas à me dire ça. J'en ai trop voulu.
Et je pense qu'on le fait aussi pour, y a, pour nous. Nous, pour nous, et pour se protéger de si après il y a une plainte comme quoi on l'appelle. Et vraiment, et je pense qu'on est beaucoup. En premier, on se dit il faut que je le dise parce que si je le dis pas, ça pourra me retomber dessus. Et après, on se dit ah bah peut-être que pour le patient.
Oui, c'est vrai.
Oui, alors le premier entretien.
En plus, la peur de la plainte.
En
plus. Comme si votre métier n'était pas suffisamment difficile.
Il sortait, mais non, il sortait.
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la communication dans les services? Vous avez une idée? Vous êtes là parce que vous allez devenir aussi bientôt des chefs.
Donc en fait, c'est une patiente que j'ai vue en hôpital de jour cet été pour un cancer pulmonaire qui est traité par radiochimiothérapie. Donc c'est plutôt, on est plutôt content parce que c'est des cancers qui vont être en rémission plusieurs mois. Et puis je la vois pour la dernière séance. Et donc je lui dis « Ah ça y est, c'est la dernière séance, vous allez pouvoir partir en vacances ». Et quand je reviens de mes vacances en août, je vois qu'elle revient en urgence parce qu'on a découvert des métastases cérébrales. Donc ça fait 4 semaines que la patiente est là et donc elle vient de finir ses séances de radiothérapie. Elle a perdu du poids, elle est méconnaissable. Et quand on me la présente, avec « Oh bah madame machin, elle est encore là ». Et je leur dis, bah alors comment ça se passe sur le moral et puis au niveau des douleurs. Et en fait, la médecin, elle me parle que du problème de « elle est encore là ». On a envie qu'elle parte. Le souci, c'est où va aller la patiente puisque maintenant, elle n'a plus besoin d'être hospitalisée. Et sauf que pour rentrer à la maison, ils habitent dans un tout petit appartement à Paris et qu'il n'y a pas la place pour l'hospitalisation à domicile. Et je me retrouve face à une situation inextricable. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est que le mari parle beaucoup. Et en fait, la patiente, on ne sait pas toujours ce qu'elle veut. Je pense qu'elle est d'accord avec ce que son mari dit. Au fond, ils sont mais magnifiques d'amour. Ça fait cinq, enfin, je ne sais pas combien de temps que ça fait. Mais moi, j'avais été la voir un peu avant en lui disant « Mais qu'est-ce que vous, vraiment, au fond de vous, qu'est-ce que vous souhaitez ?» Et donc, elle me dit « Voilà, moi, je souhaite rentrer à la maison, mais je sais que ça va être difficile pour mon mari parce qu'il est fatigué. » C'est une famille qui a tout compris. Enfin, ils savent que c'est une maladie qui est incurable, qu'elle va être en soins palliatifs. Donc finalement, on en vient à l'idée que le mieux, c'est une hospitalisation à domicile dans leur tout petit appartement et que ce serait une phase intermédiaire. Tout le monde est d'accord sur ça. Je pars le vendredi, j'appelle l'hospitalisation à domicile. Je suis contente. Je me dis, bon, bah, au pire, c'est pas possible. Et puis, elle reste là un peu plus longtemps. Et donc, j'arrive le lundi matin, faire les transmissions avec la médecin qui reprend la place. Et elle répond, de toute façon, il n'y aura pas d'HAD, c'est pas possible. Alors peut-être qu'en effet, c'était pas une bonne solution, mais c'est surtout que j'ai essayé de comprendre ce que ces gens voulaient. J'ai passé du temps avec cette dame, enfin, cette médecin, je pense qu'elle passe 2 minutes dans la chambre, elle lui prend un lit, bon bah elle lui prend un lit, quoi, ça l'intéresse pas. Et, ok, elle lui prend un lit, mais bon bah on va pas la mettre dehors. Et je pense qu'en plus pour elle, son mari me dit, bah voilà, ça fait 3 jours qu'elle dort pas parce que. Quand on arrive dans sa chambre, on lui dit « Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez partir en hospitalisation? Vous voulez partir en soins de suite? Qu'est-ce que vous voulez ?» Et je me dis « Bah oui, mais c'est horrible pour elle. Enfin, on la chasse. »
Qu'est-ce qu'elle dit quand on lui dit ça tous les jours?
Bah, elle dit rien, mais elle fait semblant de dormir.
Qu'est-ce qu'elle voudrait au fond, là?
Bah, au fond, elle voulait rentrer chez elle.
Elle veut rentrer chez elle.
Ce qui m'a embêtée, c'est qu'on n'a jamais écouté la patiente. En tout cas,
il faut qu'elle s'en aille du service.
Voilà, mais c'était ça.
C'était ça, affreux
à entendre.
C'est ça qui était insupportable.
Ouais, voilà. Hein ouais. Bah, c'était assez malheureusement. Je sais pas. Enfin, il faut imaginer quelle pression ils subissent aussi. Hein. Je suis désolée, mais cette tarification à l'acte, ça, c'est. Alors, certes, c'est plus facile pour eux de dire ce genre de choses parce qu'ils sont plus au lit du malade et ils s'attachent plus au malade. Donc, mais ça doit pas être facile tous les jours pour eux non plus.
C'est pas drôle du tout.
Ouais. Mais
ça, malheureusement.
Je pense que si on pouvait faire différemment, il le ferait.
Oui, mais au moins si vous pouviez partager cette réalité. Lucille ?
Moi, j'ai eu quand même ce patient, je ne sais pas si je vous avais eu l'occasion d'en parler, mais rapidement, enfin, il y a un patient qui est mort et qui ne devait pas mourir. En partie à cause de... Enfin, c'est comme le Titanic, il n'a pas coulé à cause d'une erreur, mais de plein d'erreurs. C'est pour ça qu'il est décédé, ce patient, et je pense qu'il y a une des erreurs. Enfin, c'est pas clair, bref. Enfin, en tout cas, ça a été très difficile, cette période, et la perte de ce patient, et je ne me souviens pas de son nom. Je me souviens du numéro de la chambre, je me souviens de son visage. Et je me suis dit, mais c'est fou. Mais est-ce que je m'en souviendrai un jour? Ou est-ce qu'il a été complètement rayé du disque dur?
Mais du coup, je culpabilise un peu.
Mais tu t'en rappelles de son visage, de...
Oui.
Donc ça, c'est aussi une façon de se souvenir. Et,
Oui, non, mais c'est ça. Mais je trouve ça bizarre. Enfin, mais je l'accepte. Je cherche pas à, désespérément à retrouver ce nom. Et je me dis que c'est sûrement bien. Enfin, c'est une protection de l'inconscient. Enfin, voilà.
Et pourquoi t'as culpabilisé?
Parce que ce patient,
que tu croyais pas.
Non, mais parce que ce patient, je l'ai avec moi et je le quitte. Enfin, il me quittera plus, quoi.
C'est ça.
Et je le sais. Mmh. Et donc, je sais pas. On peut pas revenir en arrière. On peut. J'ai hésité à abandonner médecine, mais je sais pas. Je l'ai pas fait. Puis je vais pas faire grand chose d'autre. Et puis on aime son travail, mais je sais qu'il est avec moi, quoi. Et je me suis dit peut-être que. Je sais pas. J'ai culpabilisé. De ce qui s'est passé et de même pas savoir son prénom. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte, quelque chose d'encore plus horrible, c'est que malgré le fait que j'ai vécu ça, que peut-être j'ai inconsciemment un patient dont les choses qui se sont mal passées, et ben en fait, malgré ça, je n'y pense pas et j'arrive à avancer. Mmh. Et que, en fait, les gens meurent, mais on avance, et en fait, c'est assez effrayant de s'en rendre compte. Mmh. Mais peut-être que c'est comme ça, parce que c'est comme
bien
ça qu'on
sûr.
Peut avancer et qu'on peut soigner d'autres personnes. Mais c'est ce vertige-là, c'est de me rendre compte que j'avais oublié son nom, que j'avais avancé, que maintenant j'y pensais plus, que j'avais retrouvé mon sommeil. Et du coup, j'étais surprise à quel point mon mécanisme, mon psychique, ma volonté avait fait qu'en fait, j'arrive à avoir maintenant une vie normale et à avancer et à être médecin, malgré ce qui s'est passé.
C'est ça.
Voilà.
Et j'ai envie de dire heureusement.
Oui.
Hein, heureusement, voilà.
Heureusement qu'on n'arrête pas à chaque fois que ceci comme ça.
Ouais, tout à fait.
Le même truc avec.
À la fin de cette séance, il est 21h30. Les participantes au groupe Balint prennent rendez-vous pour le mois suivant et sortent leur chéquier pour payer la psychanalyste.
Ouais, très bien.
Alors là, on fait notre petit chèque.
C'est 30 euros. En riant, elles disent que c'est moins cher qu'un soin en institut de beauté et que ça leur fait plutôt plus de bien. Que de toute façon, elles ne pourraient pas laisser toutes ces histoires vécues à l'hôpital envahir leur vie privée, leurs conversations personnelles avec leurs amis, leurs parents, leurs fiancés. Pour elles, c'est vraiment une démarche volontaire, individuelle, payante. Alors qu'à la faculté de médecine Paris Descartes, la participation à un groupe Balint fait partie de la formation des étudiants. C'est un module universitaire, obligatoire, et cela se sent un peu quand on rentre dans la salle de cours où a lieu le groupe de parole. Il y a moins d'intimité et d'implication dans l'air, et certains étudiants médecins restent même totalement mutiques et distants face à la psychanalyste.
Allez-y, racontez un peu vos difficultés, ce que vous avez rencontré ces derniers jours, comme cas clinique qui vous a posé un problème relationnel.
Moi j'ai un cas. J'ai une jeune fille qui va avoir 16 ans, qui vient au cabinet accompagnée de sa maman pour des douleurs abdominales avec des nausées matinales. Pas d'antécédent particulier. Donc je fais bon, bah, très bien, on va t'examiner. Juste avant, on discute, elle n'a pas de contraception, elle me dit qu'elle n'a pas de rapport sexuel. Bon, maman était là et maman voulait rester et la fille voulait également rester. Et donc je lui dis, bon, ben, tu t'allonges sur la table d'examen. T'enlèves le pantalon pour que je puisse regarder le ventre. Et là, elle me fait le sketch de « je veux pas enlever le pantalon ». Alors, moi, je reste un peu interloqué. Je fais « mais si, tu vois, j'ai besoin de regarder et de mettre une main sur ton ventre pour comprendre un peu ce qui se passe ». Et non, elle reste comme ça, bloquée. Elle veut pas baisser son pantalon. Alors, du coup, je me dis « bon, qu'est-ce que c'est ? Elle a 16 ans, t'as pas de sous-vêtements, t'as pas de... C'est quoi le problème ?» Juste, en fait, sa mère me dit « Non, non, mais elle est très, 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 très pudique. » J'arrive quand même à lui faire déboutonner, tu vois, juste le bouton pour pouvoir au moins descendre en dessous du ventre, tu vois, pour regarder. Et puis, j'ai rien à l'examen de particulier. Du coup, je dis « Bon, ben, on va quand même faire un bilan. » Et dans le bilan, j'envoie des bêta-HCG. Le test de grossesse. J'ai fait, écoute, voilà, t'as mal au ventre, mais ça fait une petite semaine, t'as des nausées, à ton âge, même si tu me dis que t'as pas de rapport sexuel, nous, en systématique, on fait bêta HCG, comme ça on est sûr que c'est pas ça, et on écarte. Bon, et elle dit trop rien. Ah, c'est pas braqué. Et elle est revenue, hier, alors elle est revenue avec maman. En fait, elle était enceinte à 5 semaines. Donc là, la mère était un peu en colère. Bon, pareil, j'ai reproposé de la voir séparément, tu vois. Mais maman ne voulait pas et elle non plus, donc bloqué toutes les deux. J'avais le couple mère-fille devant. Et je m'attendais à ce que la mère dise d'elle-même, très bien, je vous laisse et je sors. Mais non, putain, elle voulait rester. Et en plus, elle participe quasiment pas, quoi, tu vois. Elle reste là, stoïque, elle écoute et elle n'intervient pas, mais c'est juste que tu sens que quand même elle gêne la consultation parce qu'elle est là, quoi, elle est présente. Quoi.
On peut se poser quand même la question s'il n'y a pas un attouchement derrière ou un truc, enfin, c'est quand même bizarre.
Ouais, ouais, c'est ça le truc. Mais alors, du coup, j'ai posé la question. J'ai posé la question de.
Voilà. Donc, comme c'est le papa.
Non, elle m'a dit que si, finalement, elle avait eu une seule relation sexuelle. Alors, pareil, une seule, et avec son petit copain actuel. Donc, voilà.
La fille, elle a exprimé clairement qu'elle ne voulait pas cet enfant.
Ouais. Ouais, elle l'a exprimé avec maman à côté, donc.
En fait, il n'y a aucune expression de souffrance chez la mère et chez la fille. Aucune expression d'attitude de mère envers fille et de fille envers mère. C'est-à-dire, une gamine de 16 ans, enceinte, on peut l'imaginer à pleurer, à avoir peur de l'avortement, enfin, tout ça c'est humain, quoi. Là, il n'y a rien qui transparaît d'émotionnel. Et là, il ne se passe rien sauf une rigidité muette. En fait, je sens une histoire d'inceste. La présence de la mère. Comme témoin silencieux qui veut absolument pas décoller de là, le copain, on sait pas s'il existe, le rapport sexuel, on sait pas s'il a eu lieu. Ben, je sais pas, moi ça me fait penser à un truc louche.
J'ai comment alors du coup, parce que.
Non, mais je sais pas. Apparemment, j'étais pas la seule à avoir eu ce fantasme là. Ah, d'accord.
Bien sûr, et puis j'y ai pensé avant, mais du moment où elle m'a dit qu'elle avait un copain, c'est vrai que bon, je l'ai mis de côté, quoi. Après, peut-être facilité de ma part, quoi, parce que du coup. Si un inceste, je fais comment pour aller le chercher et je. Et comme elle est mineure, quand même, du coup, c'est.
On espère qu'il va y avoir un moment où tu vas pouvoir communiquer avec les gens de la PMI ou un gynéco qui vont arriver à lui faire un examen gynéco à un moment, déjà voir pourquoi. Enfin, voilà, s'il n'y a pas aussi des sévices ou des. S'il n'y a pas eu des.
Parce que c'est impossible à voir, quoi. Parce que j'ai dû voir juste une parcelle de son ventre, donc des lésions, des griffures, tu vois, ce genre de choses, des lésions de trucs. Impossible, quoi. Et autant, je pensais à ça, parce que du coup, autant j'ai changé dans les consultations, là, quand je vois des nouvelles femmes, tu sais, qui viennent au cabinet, je leur demande maintenant systématiquement dans leurs antécédents si elles ont été victimes d'agressions sexuelles. Parce que la dernière fois, on en a une qui nous a dit oui, donc je me suis dit, bon, à partir de maintenant, je pose la question comme ça, de but en blanc, froidement, au début, comme si je recueille les antécédents, et comme ça, en fait, ça passe. Mais par contre, le faire, quand il y a vraiment un doute, une suspicion, alors là, c'est plus du tout la même histoire.
Vous la revoyez demain.
Je la revois demain et je vais l'adresser au planning. Alors du coup, mon seul petit espoir, c'est que du coup, demain, elle se présente sans maman, mais je ne mettrai pas un ongle à couper, quoi. Je pense qu'elle va se présenter encore une fois avec sa mère, quoi. Mais peut-être que du coup, oui, j'aborderai peut-être le copain, peut-être, demain. Est-ce que tu veux qu'on en reparle avec ton copain? Parce que du coup, il faudrait que je fasse le bilan aussi de MST pour ton copain. Voir si elle me présente son copain ou pas, peut-être que je le présenterai comme ça. Et si elle me dit non, ou quelque chose comme ça, et qu'elle me remet des freins, j'appellerai le planning après qu'elle soit sortie pour les informer, quoi. Ouais, non, c'est compliqué, ouais. Du coup, de voquer l'inceste, c'est pas quelque chose auquel on est habitué.
Difficile, hein. Humainement difficile, hein. Toutes ces situations, on l'a évoqué, ça vous permet quand même de voir la complexité de votre rôle de médecin et la complexité des situations et des relations et ce qu'il y a derrière tous ces individus là qui disent des choses, mais on ne sait pas vraiment si c'est le reflet d'une réalité, d'un fantasme, d'une angoisse. C'est pas évident, hein. Et donc, observer et écouter, c'est ça qui va vous donner le ressort pour réagir et dire « Ah, mais c'est bizarre. » Voilà, il faut que vous, vous vous impliquiez personnellement, que vous fassiez confiance à votre ressenti. Surtout, c'est important que vous vous investissiez dans la relation et que vous soyez à la recherche de « Mais qu'est-ce que l'autre me dit que je ne comprends pas ?»
Animals come, banging their drums, street clears in summer. Kids run around, having their fun, men are already drunk.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre et des histoires racontées lors de groupe Balint, un reportage de Delphine Saltel réalisé par Thomas Jost. L'attachée de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon avec Valérie Borst. Merci à Martine Rusniewski, à Martine Fabre, aux participants des deux groupes, au docteur Philippe Jory, au docteur Philippe Guillou, ainsi qu'à Brigitte Grace. Vos commentaires, on les attend toujours avec impatience sur notre site franceculture.fr à la page des pieds sur terre. Vous pouvez également réécouter notre émission ou la podcaster. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur le compte Les Pieds sur Terre France Culture ou bien sur Twitter. Voilà, en attendant de vous lire, je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture.
Lost in the crowd, shouting out loud, drinking my fill of a bottle of gin. I'll do anything to help me forget about you.
You're full of it, you're hopelessly flat, with that girl who works in the pub for a night. But at closing time, you will be at my door. Tell me what it is I have to do. I sacrifice everything for you. I was feeling so good and the sun was shining. All I wanted was to get across the street. I made my biggest mistake when I left her with a yelling match and a broken kettle.
I'm sick of this, you're a little kid. I always have to bail you out when you take off with your drinking mates and the idiot games. If you sing the songs, you have deserved to take me. Beat me up cause I crossed the marsh. They said I need to learn a bit of respect, but I am on their side and I follow the team. When I get out of here, somebody's gonna get it.